sur Europe 1.
Et vous le disiez à l'instant, Sébastien, comment convaincre les adolescents de se faire vacciner? Ils sont autorisés à recevoir une dose à partir d'aujourd'hui sur la base du volontariat uniquement. Dans ce journal, l'indulgence du gouvernement à quelques heures du match de l'Euro entre la France et l'Allemagne. Exceptionnellement, la police sera plus tolérante après le couvre-feu. Le soutien aux jeunes précaires du numéro 2 du Rassemblement National, Jordan Bardella, à quelques jours des élections régionales. Et puis paranoïa et sentiment de persécution, les experts dressent un portrait inquiétant de l'ancien compagnon et meurtrier de Julie Dweep.
Le journal des sports à suivre et mon invité inattendu sera l'humoriste qui s'était lancé le défi un peu fou de partir en voiture jusqu'en Chine pour y donner des spectacles. Il était venu nous en parler dans le 5-7. Eh bien, on va prendre des nouvelles ce matin. Vous allez voir que rien ne s'est passé comme prévu. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et ça y est, c'est ce soir. Les Bleus font leur entrée dans l'Euro de football avec un choc contre l'Allemagne à Munich. En France, le couvre-feu est maintenu à 23h. Pas de dérogation, mais un peu de souplesse tout de même de la part du gouvernement. Car si vous avez prévu d'aller regarder la rencontre dans un bar chez des amis ou dans une fan zone, eh bien bonne nouvelle, selon les informations du service politique d'Europe 1, le ministre de l'Intérieur a demandé aux forces de l'ordre de se montrer tolérantes, Jean-Gabriel Bourgeois.
Voilà, c'est écrit noir sur blanc sur le télégramme qu'a envoyé Gérald Darmanin à tous les préfets hier soir. Le ministre de l'Intérieur demande aux forces de l'ordre de faire preuve d'une particulière mansuétude dans le contrôle des personnes qui rentreraient chez elles après avoir regardé le match à l'extérieur de leur domicile. Mais le ministère le précise, cette tolérance ne saurait être un prétexte pour pouvoir prolonger la soirée dans des bars, des restaurants ou sur la voie publique. Gérald Darmanin insiste, l'horaire du couvre-feu reste fixé à 23h. Déjà, une dérogation exceptionnelle avait été accordée aux spectateurs de Roland-Garros vendredi dernier et cette nouvelle indulgence pour le match des Bleus ce soir pourrait raviver le débat sur le maintien du couvre-feu. Une restriction de plus en plus difficile à faire respecter, les jours rallongent, l'épidémie recule et l'envie de faire la fête s'impose pour beaucoup de jeunes. On l'a encore vu le week-end dernier, notamment sur l'esplanade des Invalides à Paris. Officiellement, le couvre-feu doit prendre fin le 30 juin. Dernière étape du déconfinement.
Jean-Gabriel Bourgeois, on en vient à cet autre grand titre ce matin. Justement, on parlait des jeunes, et bien les jeunes peuvent à partir d'aujourd'hui se faire vacciner contre le Covid.
Oui, entre 12 et 18 ans, à condition que leurs parents soient d'accord, ils pourront recevoir une dose, mais pour ça, eh bien, il faudra déjà les convaincre eux-mêmes. Et devant le collège où s'est rendu Victor Dolande, eh bien, les avis divergent.
Quand on est vacciné, on peut aller là-bas, sans que je me dise « je vais attraper le Covid par là ». Ce sera trop cool.
Mathéo, 12 ans, a vu son père se faire vacciner et il attend désormais son tour. Sur la dizaine de collégiens que j'ai rencontrés, il est le seul à avoir confiance dans la vaccination. La piqûre, dit-il, même pas peur. Une assurance que tous ses camarades ne partagent pas.
J'aime pas trop les piqûres, tout ça. Et puis, de ce que j'ai vu sur, par exemple, les réseaux sociaux, les effets secondaires, ils font pas mal un peu peur. Et puis, s'ils sont réellement si présents que ça, ça risque d'être compliqué.
Les effets secondaires, ils en ont entendu parler sur YouTube, Snapchat ou Instagram. Certaines fake news fantaisistes parviennent même à les faire douter. Comme Carly et Lina, élèves de 5e.
En fait, il y a plein de rumeurs qui disent qu'après 2 ans, toutes les personnes qui ont fait le vaccin, ils meurent.
J'ai peur d'avoir de la peau aimantée et de tomber dans les pommes.
Des théories pourtant démenties par la science, mais qui continuent de circuler très largement chez les adolescents.
Voilà, les rumeurs et fausses informations qui circulent à plein sur les réseaux sociaux. On va répondre très concrètement à vos questions ce matin avec mon invité à 6h40, l'infectiologue Odile Launay, sur cette vaccination des ados.
J-5 avant le premier tour des élections départementales et régionales. Hier soir, la chaîne LCI organisait un débat entre les 7 principaux candidats en Île-de-France. Économie, emploi, sécurité, jeunesse, chacun a pu présenter ses idées. Écoutez le vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella, à propos du soutien aux plus précaires.
Je pense que la région doit être un bouclier face à la casse sociale qui est en train d'organiser, qui a organisé le gouvernement depuis maintenant plusieurs mois, suivant évidemment les gouvernements précédents. Mais on a tous été choqués par ces images de jeunes qui faisaient la queue devant les banques alimentaires durant la période du confinement. On sait que beaucoup de jeunes ont été aussi touchés par un malaise psychologique, parfois certains par une tentation du suicide aussi. Ça a existé, il faut pas le cacher, les médecins le disent. Moi, je veux que la région soit un bouclier social. Je veux que la région, elle protège la jeunesse. Nous avons notamment formulé une proposition qui consiste à prendre en charge pour les boursiers qui ont le plus de difficultés, échelon 4 à 7, les deux premiers mois de loyer lorsqu'ils sont dans un logement du Crous, à compter du mois de septembre, il y a environ 20 000 logements Crous. Nous souhaitons que les boursiers les plus en difficulté puissent être pris en charge sur leurs deux premiers mois du loyer. Et puis, je souhaite surtout accompagner la jeunesse qui crée de l'emploi, parce qu'on est la région de l'excellence, du savoir-faire, là où nous avons les plus beaux pôles universitaires du pays. Et nous souhaitons notamment mettre en place un fonds annuel de 500 millions d'euros qui va permettre d'aider chaque jeune à créer son entreprise.
Le numéro 2 du RN Jordan Bardella sur LCI hier soir à l'étranger. La réponse de la Chine ce matin au lendemain du sommet de l'OTAN. Pékin accuse l'Alliance d'exagérer la théorie de la menace chinoise et de faire preuve d'une mentalité de guerre froide. Hier, les dirigeants de l'OTAN affirmaient devoir s'allier pour faire face aux défis posés par la Chine pour leur sécurité.
Vous restez avec nous dans un instant sur Europe 1. On continue de suivre le procès du meurtrier de Julie Dweeb en Corse. Hier, les experts ont dressé son profil, celui d'un homme dangereux. C'est à suivre. À tout de suite sur Europe 1, 6h06.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Et il est 6h08, la suite de votre journal, Sophie Echen.
Et trois semaines après l'ouverture du procès Big Malion, le principal intéressé, Nicolas Sarkozy, est attendu à la barre aujourd'hui. L'ancien président devra s'expliquer sur les dépenses excessives de sa campagne en 2012. Le procès du féminicide de Julie Dweeb se poursuit. Son ancien compagnon est jugé pour son assassinat en 2019. Il doit être interrogé ce matin. Et hier, Marion Dubreuil, des témoins et des professionnels se sont succédés pour dresser son profil.
Oui, l'expert qui a rencontré Bruno Garcia en prison est catégorique. Sur le plan psychiatrique, on n'arrivera à rien. La paranoïa ne se soigne pas et s'aggrave avec l'âge. Bruno Garcia estime que sa place n'est pas en prison, qu'il y a un acharnement contre lui. Poursuit le psychiatre, il a deux persécuteurs désignés, son beau-père et Sébastien. Quand il explique à un proche, depuis sa cellule, que Sébastien, le nouvel ami de Julie Dweeb, allait être sa force pendant 20-25 ans de prison et qu'en sortant, il allait lui faire son compte. « On peut le prendre au sérieux ?» demande l'avocat général. « Oui, » répond l'expert. C'est aussi le sentiment de Stéphanie, une amie de Julie qui a témoigné contre Bruno Garcia.
« On est là, on a beaucoup de courage de faire ce qu'on fait, hein, mais voilà, nous aussi on a peur. » De lui, des individus qui l'entourent. Voilà, il faut qu'il reste enfermé longtemps, très très longtemps.
C'est justement par peur des représailles que l'ex-compagne de Bruno Garcia a refusé de témoigner au procès. Elle avait mis en garde les gendarmes. Tout le monde le sous-estime, soit on le prend pour un pauvre type, soit on le prend pour un fou. Bruno est malin et pour moi, il est dangereux.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Rappelez-vous cet épisode de gel tardif qui a ravagé plusieurs vignobles en avril. Aujourd'hui, des scientifiques avertissent que ce genre d'épisode a été renforcé par le changement climatique et qu'il pourrait y en avoir de plus en plus à l'avenir. Cette année, les gelées ont causé la perte d'un tiers de la production viticole française, soit environ 2 milliards de chiffres d'affaires pour le secteur. Et puis, alerte de niveau 2 pour la pollution à l'ozone dans les Bouches-du-Rhône. Il faudra lever le pied sur la route aujourd'hui. La vitesse maximale est abaissée de 20 km/h.
C'était Sophie Echen pour le journal. Il est 6h10. Et nous ouvrons la page des sports avec vous, Aurélien Fleurot. Le rendez-vous est à 21h ce soir. Face à l'Allemagne, c'est jour de match pour l'équipe de France.
Et comme un air de finale, déjà pour débuter cet Euro, les champions du monde face à l'une des nations les plus solides de l'histoire du foot. Des Allemands revanchards après une défaite en 2016, on s'en souvient. En demi-finale de l'Euro 2-0, c'était à Marseille au stade Vélodrome. Des Allemands que connaît parfaitement Benjamin Pavard, le latéral droit des Bleus qui joue au Bayern de Munich.
En club, ce sont mes amis, mais là, le temps d'un match, ça sera mes adversaires. Donc, il n'y aura pas de cadeau. S'il faut mettre le pied, je le mettrai. C'est excitant, ce premier match face à l'Allemagne, en plus à Munich. Voilà, ça ne va pas être un match facile face à une très bonne équipe d'Allemagne. Il ne faudra pas se mettre de pression particulière.
Benjamin Pavard avec Cyril de la Morinerie, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, que vous retrouverez ce soir pour vous faire vivre le match sur notre antenne dès 20h, Europe 1 Football Club autour de Lionel Rousseau.
Une affiche hein, d'entrée donc, pas de pression, un peu quand même, et un statut de favori à assumer hein, pour les Bleus.
Eh oui, même face à l'Allemagne, hein, l'équipe de France qui est régulièrement citée comme possible vainqueur de la compétition, notamment grâce à son trio offensif Griezmann, Mbappé, Benzema, même s'il faudra avant tout une performance collective. Comme l'a rappelé hier Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, qui retrouveront ensuite la Hongrie puis le Portugal, deux équipes qui s'affrontent aujourd'hui à 18h.
Foot toujours avec les résultats, les derniers résultats en bref.
Oui, match nul 0-0 de l'Espagne hier soir face à la Suède dans un groupe E où la Slovaquie a surpris la Pologne 2-1. vous allez forcément le voir en boucle. C'est le but de ce début d'Euro lors de la victoire de la République tchèque face à l'Écosse, 2-0, dont un incroyable lob de près de 50 mètres signé de l'attaquant Patrick Schick. Allez, on change de continent, direction l'Amérique du Sud, où se dispute en ce moment la Copa América. L'Argentine a été tenue en échec un partout cette nuit par le Chili, malgré un très joli coup franc de Lionel Messi.
On termine avec un mot de tennis, lors du bilan, hein, un Roland-Garros après une deuxième édition impactée par la crise sanitaire.
Bilan financier plutôt bon compte tenu des restrictions, 100 000 spectateurs en 15 jours, un chiffre d'affaires en baisse seulement de 80 millions d'euros. Bilan sanitaire également dressé par Amélie Oudéa-Castera, directrice générale de la Fédération française de tennis.
Ce déploiement du pass sanitaire pour la première fois à grande échelle sur un événement sportif, avec 97% des spectateurs du tournoi qui sont arrivés bien préparés et notre dispositif qui était prêt pour les 3% d'autres de façon à ne rejeter personne aux portes de notre stade.
Et puis après son forfait à Roland-Garros, sachez que Roger Federer a rejoué, le genou a tenu, victoire sur gazon à Halle en Allemagne.
Voilà, avec Wimbledon maintenant qui se prépare pour Roger Federer. Aurélien Fleureau pour les sports, merci. Il est 6h13.
Europe 1.
L'heure d'accueillir mon invité inattendu, et c'est un humoriste ce matin, mais un aventurier aussi. Vous l'avez déjà entendu dans le 5-7 et on prend ce matin des nouvelles de lui. Bonjour.
Bonjour, c'est Patrick le Chinois.
Bonjour à vous, vous êtes l'humoriste qui fait rire la Chine. Vous étiez venu nous raconter il y a quelques mois votre grand départ. Vous partiez en voiture jusqu'en Chine pour y jouer vos spectacles. Et ce matin, vous êtes en ligne depuis la Russie. Parce que tout ne s'est pas exactement passé comme prévu, vous nous racontez ça tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
6h15 sur Europe 1, l'invité inattendu du 5-7 ce matin est l'humoriste Patrick le Chinois, Patrick Vesselier. Je disais, vous étiez venu lancer sur Europe 1 votre périple, rallier la Chine en voiture pour aller jouer là-bas vos spectacles en mandarin, parce que vous l'avez appris. Vous êtes aujourd'hui en Russie, en ligne avec nous. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de soucis à chaque frontière. Je pensais avoir fait le plus dur. Et là, je me retrouve malheureusement bloqué à la frontière chinoise. Bon, j'ai eu des problèmes dès le départ, hein, puisque j'ai pas pu rentrer en Autriche. J'ai dû contourner plusieurs fois l'Europe. J'ai eu des problèmes pour sortir de l'Europe. J'ai eu des problèmes pour rentrer en Russie. Mais j'avais fait le plein de confiance, je dirais, en franchissant tous ces obstacles. Mais le dernier était un peu trop haut et on n'a pas pu trouver la solution administrative.
Ça veut dire que là, vous êtes aux portes de la Chine. Vous êtes tout proche ?
Je suis aux portes de la Chine, là, au moment où je vous parle, je suis à Tchita, en Russie, donc j'ai traversé la Sibérie, j'ai fait 5 semaines de voiture, c'était assez compliqué, et il se trouve que pour aller en Chine, il y a une quarantaine obligatoire qu'on a réussi à lever, mais en Chine actuellement, il y a également des quarantaines obligatoires quand on traverse les régions, et moi, je dois traverser 7 régions, on a réussi à être exempté de quarantaine, enfin j'ai réussi sur 4, il me reste 3 régions à traverser avec des quarantaines de 21 jours, donc ça rend la mission trop compliquée.
Vous deviez aller jusqu'à Shanghai et Pékin pour y jouer vos spectacles en mandarin.
Non, c'était en bas, je devais aller à Guiyang et Chengdu, donc ça me faisait traverser la Chine du nord au presque sud, je dirais. Voilà, les autorités chinoises ont été formidables en m'accordant un visa dans ces temps difficiles, en faisant leur possible, mais après il y a des gouvernances par région qui rendent la chose trop compliquée.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de laisser tomber ?
J'ai une double peine, c'est-à-dire que les organisateurs du spectacle ont été formidables et l'ont reporté au mois de janvier prochain, donc ça, c'est pas un problème. Je suis obligé de laisser tomber et je suis surtout obligé de rentrer en voiture, vaut mieux en rire, parce que quand on rentre en Russie avec un véhicule, il faut ressortir de la Russie avec le même véhicule, en voiture, de faire marche arrière.
Vous refaites tous les kilomètres dans l'autre sens. Combien de kilomètres vous avez fait depuis votre départ de France ?
Alors, je fais pas tout à fait le même nombre de kilomètres, j'en ai 17 500 pour l'instant, parce que j'ai tourné en Europe pour trouver la sortie. Je pense que je vais en faire à peu près 12 000, donc je peux plus rentrer par l'Ukraine. C'est un peu compliqué, parce que comme il y a un conflit, je suis sorti par l'Ukraine, mais maintenant je suis resté plus de 15 jours en Russie. Donc l'entrée en Ukraine va être périlleuse, donc je vais passer par plus par le nord, par Moscou, en espérant que la Lettonie ou l'Estonie me laisse rentrer, puisque ces deux pays m'avaient pas laissé sortir à l'aller.
D'accord.
Bon, si vous voulez, donc le retour va être un peu périlleux.
C'est encore compliqué.
Je suis suivi par tellement de gens sympas.
De Covid, et vous vous étiez en tout cas lancé dans un sacré défi. Comment vous vivez ça de pas avoir réussi à aller jusqu'au bout, ça doit
être quoi, c'est dur. Là, au moment où je vous parle, ça fait 5 heures que j'ai appris que je pouvais pas passer de manière définitive. Donc c'est toujours la déception qui l'emporte, même si les gens sont tous super, qu'on dit qu'il faut tirer le bien, etc. Là, je suis encore dans la déception. Je pense que ça ira mieux demain. Là, c'est malgré tout la déception parce que j'aurais aimé accomplir la mission. Et puis, il y a eu tellement de chemin parcouru. J'ai fait avant-hier 16 heures de piste, 400 km en 16 heures pour pouvoir atteindre ce point de frontière un peu compliqué. Bon, c'est comme ça. Alors, je vais garder évidemment que des bons souvenirs de l'aventure, mais le retour va être extrêmement périlleux. Et puis, je recommence les tests PCR parce que je vais franchir des frontières à nouveau. Enfin, tout recommence depuis le début, là.
Ouais, avec un retour, donc... encore 4 ou 5 semaines, le temps de revenir jusqu'en France. Et avec un nouveau défi auquel vous avez pensé, du coup, sur la route, parce que vous ne vous arrêtez pas à apprendre le mandarin, vous voulez jouer votre spectacle en russe ?
Alors, c'est un concours de circonstances. Il se trouve qu'à Omsk, en Sibérie, j'ai été accueilli par la télévision russe. Et donc, j'ai annoncé ça à la télévision sur un coup de tête. Mais eux ont pris la date. Donc, je joue au mois de mars prochain à Omsk, en Sibérie, en russe, si vous voulez le... Voilà.
Bon, bah voilà, c'est le prochain défi. On suivra ça. Merci en tout cas. Vous deviendrez peut-être
Patrick le Russe
d'ici là. En attendant, c'est Patrick le Chinois. Merci.
Ouais, voilà.
À vous.
Voilà, on va voir. Merci de votre appel en tout cas. Et à très bientôt.
Et bonne route à vous.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h20 sur Europe 1. Un peu de souplesse ce soir à l'occasion du match des Bleus contre l'Allemagne. Le couvre-feu reste fixé à 23h. Pas de dérogation, mais une consigne de tolérance donnée aux forces de l'ordre si vous rentrez chez vous après le match et un tout petit peu au-delà de 23h. L'ouverture aujourd'hui de la vaccination pour tous les adolescents entre 12 et 18 ans sur la base du volontariat uniquement avec l'accord signé des deux parents. Et puis l'Angleterre met en pause son déconfinement et repousse la levée des dernières restrictions de 4 semaines à cause de l'augmentation de cas du variant Delta, le variant indien du virus. On y reviendra, nous serons sur place dans la revue de presse internationale tout à l'heure à 7h-10. La musique et la guitare de Carlos Santana, le récit, la partition d'Omblin Roche à suivre, à tout de suite.
Europe 1.
6h24 sur Europe 1, c'est l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche. Son jeu de guitare est immédiatement identifiable. Proclamé créateur du style rock latino, Carlos Santana a ouvert la voie aux autres musiciens en fusionnant Omblin, le rock électrique et les rythmes afro-cubains.
Et oui, il n'y a pas plus universel comme langage que la musique, Sébastien. Et cet adage, le guitariste mexicain le prend au mot en composant dès le départ une partition qui portera bientôt le nom de World Music.
Le groupe Santana se révèle en août 69 à Woodstock.
Et 30 ans après avoir fait vibrer le chant de Bethel dans l'état de New York, 30 ans après avoir irrémédiablement marqué le monde de la musique, Santana signe enfin le plus grand succès de sa carrière. Il était temps. Ils étaient nombreux, ceux qui avaient oublié Carlos Santana, et ça l'a beaucoup amusé. J'apparaissais comme une nouveauté alors que le métissage musical m'était familier depuis toujours.
En 1999, Santana doit son comeback inespéré à un homme.
À un producteur connu pour avoir des oreilles en or, un dénicheur de talent qui a derrière lui 50 ans de carrière et un catalogue impressionnant d'artistes sur lequel on peut lire les noms de Janis Joplin, Bruce Springsteen ou encore Whitney Houston. Elle lui doit tout, ou presque. Cet homme s'appelle Clive Davis.
Clive Davis va faire comprendre à Carlos Santana qu'il ne joue pas les bonnes chansons.
Voilà, celle qui entre dans la case radio, un vecteur essentiel, on le sait bien. Quand le disque Supernatural sort, ce sont les jeunes qui permettent aux guitaristes de s'imposer. Les enfants de ceux qui étaient à Woodstock, les fans de la première heure, eux, perçoivent cette commercialisation comme une trahison.
Mais les différentes combinaisons de Supernatural séduisent et fonctionne mieux que prévu.
Oui, combinaison de rock avec la guitare plaintive, la rumba, combinaison de rap avec la participation de Lauryn Hill qu'on entend. Il y a même la version funk du concerto numéro 2 de Brahms. Des compositions de Carlos Santana, eh bien elles sont plurielles. Les gens rient, dit-il, pleurent, dansent, chacun y trouve son compte. Elles touche touche les grands-parents, les adultes, les adolescents et de toute nationalité. Voilà, la World Music, un an après sa sortie, le disque Supernatural atteint la tête des ventes mondiales.
De 30 millions d'exemplaires dans le monde, sorti en 1999, l'album Supernatural. C'est Smooth, Carlos Santana avec le chanteur Rob Thomas.
Oui, il fera mieux au Grammy Awards que Michael Jackson en 83, ah ouais, en remportant 8 trophées, notamment meilleure chanson de l'année. Voilà, Carlos Santana et cet album 15, sorti le 15 juin 99, que vous avez eu la chance de voir en concert.
8 Grammy Awards, mais ça fait longtemps, c'était il y a longtemps. Mais c'était impressionnant de le voir jouer, Carlos Santana. Merci à vous, Amblin Roche. César, Laurent Cabrol, c'est à vous.
Et c'est pas mal à Nevers parce que vous avez frais là-bas en ce moment. Hein. 10 degrés à Nevers. Et savez-vous combien il fera à Nevers cet après-midi ? 32. C'est ahurissant. Vous allez prendre 22 degrés d'un coup. Alors les températures du matin, tiens, puisque j'en parle. 13 à Nancy, 14 à Brest, 15 à Strasbourg en ce moment, 16 à Bourges, 17 à Lille, 18 à Tours, 19 à Bordeaux, 21 à Paris, Lyon, Marseille, ben oui. 22 Toulouse, Nice, 22, 26 Perpignan. Et les températures maximales, c'est comme hier matin à la même heure, 27 degrés dans la ville de Sète et dans la ville de Le Cap. Nous sommes au bord de la Méditerranée, bien sûr. Et dans la journée, eh bien, ce sera du 24 à 37 degrés. Autant dire que cette journée ressemble comme une sœur à celle d'hier. Et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure sur quelques orages.
À tout à l'heure, juste avant 7h. Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Soyez les bienvenus si vous vous réveillez avec Europe 1. Vous avez fait le bon choix tout de suite. Votre journal. Bonjour François Geffrier.
Guten Tag.
6h30 sur Europe 1.
C'est à Munich que retentira l'hymne allemand ce soir avant la Marseillaise. Premier match de l'Euro de football pour nos Bleus face à une Mannschaft qui n'est peut-être pas à son meilleur niveau. Le couvre-feu est toujours à 23h ce soir aussi, même s'il y aura une tolérance. Nous verrons ce que disent les scientifiques de cet horaire de plus en plus remis en question. Et puis un incident sur un réacteur nucléaire en Chine construit par EDF. Des gaines métalliques ne sont visiblement pas étanches à certains gaz rares émis par la fission des noyaux atomiques.
Après le journal, quel bénéfice à vacciner les ados dès 12 ans alors qu'ils échappent aux formes graves. Que sait-on des risques, des effets secondaires alors que s'ouvre la vaccination des mineurs aujourd'hui? L'infectiologue Odile Launay répond aux questions que vous vous posez sans doute. Elle est mon invitée dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On peut arriver favori d'un tournoi et pourtant trembler dès le premier match quand celui-ci oppose la France à l'Allemagne. Une affiche qui rappelle des bons souvenirs, une demi-finale de l'Euro 2016. Mais ceux qui ont la mémoire longue ont des moments plus douloureux en tête.
Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Cette année, même s'ils jouent à domicile, les Allemands sont moins impressionnants que d'habitude.
Oui, c'est vrai que ça faisait longtemps que l'Allemagne n'avait pas débuté une grande compétition avec aussi peu de confiance. Cette Mannschaft, souvenons-nous, on l'avait quittée au Mondial 2018 dès les phases de poule. Et dans la foulée, l'Allemagne n'a pas franchement retrouvé toute sa superbe. À tel point que le sélectionneur Joachim Löw a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait son poste à l'issue de l'Euro. Et c'est une motivation supplémentaire pour les joueurs, comme le gardien star Manuel Neuer.
Il mérite un bel adieu. Joachim Löw a fait de grandes choses avec nous. Et on veut tous lui offrir un beau succès en guise de revoir. Notre objectif est clair pour nous, c'est d'atteindre au moins les demi-finales.
Joachim Löw, au centre de tous les débats en Allemagne depuis des mois, lui qui avait voulu rajeunir son groupe après le Mondial et se passer de certains joueurs trentenaires, qu'il a finalement rappelé juste avant l'Euro, tant son groupe manquait de qualité et d'expérience. L'Allemagne démarre donc avec beaucoup de pression, peu de certitude, mais ça reste une équipe qui sait gagner, mobiliser toutes ses forces sur une grande compétition. Les Bleus auraient donc tort de ne pas craindre cette équipe.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1 notait que le couvre-feu s'applique bien ce soir à 23h.
Mais Gérald Darmanin demande aux forces de l'ordre de faire preuve, dit-il, de mansuétude envers les personnes qui rentreront chez elles après avoir regardé le match.
Nouvelle exception donc, après la dérogation accordée vendredi soir aux spectateurs de Roland-Garros, certaines personnalités politiques demandent la suppression dès aujourd'hui de ce couvre-feu, censé s'arrêter le 30 juin. Mais Victor Dolande, les médecins recommandent la prudence.
Oui, l'épidémie est en très net recul, c'est une certitude, avec un taux d'incidence de 43 sur l'ensemble du pays. On est revenu à un niveau de contamination comparable à celui d'août 2020, mais le virus circule toujours, même à bas bruit. Il y a encore des clusters et donc les risques sont encore bien réels, comme l'explique Yannick Simonin, spécialiste des virus émergents à l'INSERM.
Le couvre-feu, il a des effets quand même parce que ça limite les attroupements, notamment tard le soir, où eh bien, on a tendance à moins respecter les gestes barrières parce qu'on est dans un environnement festif. Il y a des risques de contamination qui sont quand même présent. Donc il ne faut pas aller trop vite. Il faut maintenir encore, à mon sens, le couvre-feu une quinzaine de jours.
Le retour à la vie normale n'est donc pas pour tout de suite. Pour les épidémiologistes, il est important de bien faire comprendre aux Français que les gestes barrières ne doivent pas être levés tout de suite. C'est en les maintenant et en étant toujours vigilants cet été qu'on évitera plus facilement une quatrième vague à l'automne prochain.
Victor Dolande, et c'est aujourd'hui que commence la vaccination des 12 ans et plus dans les vaccinodromes, en présence d'un des deux parents et avec l'accord écrit des deux.
À 6h34 sur Europe 1, un incident sur une centrale nucléaire chinoise, une centrale fabriquée par EDF.
Oui, c'est un réacteur de type EPR, d'ailleurs le premier mis en service dans le monde. Il y a eu une fuite de gaz radioactif, Maude Descamps. Ce qui nous frappe ce matin, c'est qu'EDF était au courant depuis 8 mois.
Oui, en octobre 2020, du combustible a été chargé dans le réacteur numéro 1 de la centrale, des pastilles d'uranium rangées dans des grands tubes qu'on appelle des crayons. Dès la mise en route du réacteur, les mesures ont montré des fuites provenant de ces crayons. L'exploitant chinois de la centrale aurait alors dû arrêter le réacteur, mais les autorités nucléaires du pays ont opté pour une autre solution inquiétante, comme le détaille Yves Marignac de l'association Negawatt, spécialiste du nucléaire.
Les autorités chinoises, au lieu de décider d'arrêter le réacteur pour stopper la contamination et inspecter le combustible, semblent avoir décidé, chaque fois qu'un nouveau seuil est franchi, d'augmenter la limite autorisée. C'est évidemment une conduite tout à fait contraire à ce qu'on peut attendre d'une autorité en matière de sûreté nucléaire.
Et ce seuil autorisé en Chine est aujourd'hui 3 fois supérieur au seuil français. Et puis, autre source d'inquiétude, ces tubes de combustible fabriqués en France par Framatome sont également présents dans nos centrales nucléaires françaises.
Maude Descamps, spécialiste énergie d'Europe 1. Ce chiffre que nous révélons ce matin, 42% des accidents impliquant des tracteurs ont lieu l'été, selon une étude IFOP pour l'association Assurance Prévention. 98% des agriculteurs se disent très attentifs à ce qui les entoure sur la route, mais beaucoup gardent certaines mauvaises habitudes, comme l'explique Stéphane Penet d'Assurance Prévention.
Il faut d'abord dire que les exploitants agricoles sont très responsables lorsqu'ils conduisent leurs engins. Néanmoins, ils reconnaissent eux-mêmes, et je pense que ça c'est une bonne chose, que de temps en temps, ils ont roulé sans ceinture, que de temps en temps, ils ont roulé avec un véhicule, et notamment une remorque, légèrement surchargée. C'est un double risque, c'est celui d'une part de voir du matériel tomber de la remorque, mais aussi de laisser sur la chaussée les traces de la boue, de la récolte, qui peut ensuite, elle aussi, être dangereuse pour les véhicules et rendre la chaussée glissante. Il y a beaucoup de vacanciers à cette époque de l'année. Il y a des applications qui aident les Français à circuler, qui les aident à trouver des raccourcis. Et bien des fois, ces raccourcis les font passer par des routes départementales ou communales où le risque de se retrouver en train de rouler avec un engin agricole est beaucoup plus élevé pendant la période estivale.
Stéphane Penet au micro Europe 1 d'Océane Théard.
Le journal signé François Geffrier sur Europe 1, 6h37. Europe 1. Et c'est une nouvelle étape majeure dans la vaccination que la France franchit aujourd'hui, puisque les ados vont donc pouvoir recevoir leur première injection dès l'âge de 12 ans. Bonjour Odile Lenné.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin dans le 5-7 d'Europe 1. Vous êtes infectiologue en charge du centre de vaccination de l'hôpital Cochin. Quelle importance finalement de vacciner les ados quand on sait qu'ils ne développent quasiment jamais de formes graves? Est-ce qu'on ne fait que du chiffre? Mais on en parle dans un instant, à tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
7h20, la professeure Odile Lenné, infectiologue à l'Institut Pasteur, est mon invitée ce matin pour le lancement de la campagne de vaccination des ados dès l'âge de 12 ans. Professeure Odile Lenné, il y a vraiment un bénéfice pour chacun de ces ados, même si on sait qu'ils ne font jamais de forme grave?
Alors, le bénéfice pour eux, il n'est pas tellement un bénéfice sur leur santé physique, en tous les cas sur le risque d'avoir des formes graves de Covid qui sont exceptionnelles à cet âge, mais plus un bénéfice d'ordre à la fois social, familial, puisque ils ont été très impactés par la crise sanitaire et que l'idée, c'est de permettre à ces jeunes de pouvoir retourner au collège, au lycée, de pouvoir reprendre une activité sportive. Donc finalement, c'est un bénéfice plus sur leur possibilité de reprendre une vie plus proche de la normale. Et ça passe par une immunisation très large de cette tranche d'âge et, de fait, la limitation de la circulation du virus.
Ouais, c'est un bénéfice donc qui est plus collectif qu'individuel. On les vaccine aussi pour protéger d'abord les autres.
Le bénéfice n'est pas que collectif. Je pense que c'est important. Il y a évidemment un bénéfice collectif pour que le virus circule le moins possible, mais il y a aussi un bénéfice individuel dans la mesure où ces jeunes, ils ont besoin de reprendre une vie qui leur permette de pouvoir refaire du sport en collectivité, de pouvoir voir leurs amis, de pouvoir aller au lycée, au collège. Donc c'est quand même un bénéfice individuel.
Mais quand le professeur Alain Fischer, qui est en charge de la stratégie vaccinale, dit que c'est un impératif arithmétique, il nous dit qu'on a besoin de faire du chiffre pour atteindre l'immunité collective parce que certains adultes aussi ne veulent pas se faire vacciner.
Oui, alors ça, c'est évidemment un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les adultes ne veulent pas se vacciner qu'on va devoir vacciner les adolescents et puis ensuite les enfants. Donc, les adultes doivent se faire vacciner. Ils ont, à ce titre-là, ils ont un bénéfice individuel qui est bien supérieur à celui des adolescents. Et en particulier les plus âgés ou ceux qui ont des facteurs de risque, des formes graves qui, pour certains d'entre eux, restent encore aujourd'hui très réticents vis-à-vis de la vaccination. Donc je crois que il faut pas se faire d'illusions, même quand on va avoir vacciné une proportion plus importante de la population, y compris les plus jeunes, le virus va continuer à circuler et va continuer à entraîner des formes sévères et des complications chez des personnes plus à risque si elles n'ont pas été vaccinées. Donc le message, c'est oui, vaccinons les plus jeunes, et en tous les cas à partir de l'âge de 12 ans, mais faisons tout pour que les plus âgés et les plus à risque, qui aujourd'hui ne sont pas encore vaccinés parce qu'ils ont des inquiétudes et qu'ils repoussent cette vaccination, se fassent vacciner.
Alors on parle aussi ici du bénéfice, parlons des risques. Les États-Unis notamment ont pris un peu d'avance sur nous, ils ont déjà commencé il y a quelques semaines à vacciner les adolescents. Aucun cas de complications à ce stade identifié chez les ados, il n'y a pas de risque à vacciner ces enfants.
Aujourd'hui les données dont on dispose en termes de sécurité de ces vaccins reposent sur un nombre de plusieurs centaines de millions de personnes vaccinées dans le monde, mais il faut dire quand même que pour l'instant, on a vacciné essentiellement les adultes et en commençant par les adultes les plus âgés. Donc on a pour l'instant encore un recul assez modéré vis-à-vis de la vaccination des plus jeunes. Et on sait qu'il peut y avoir des effets indésirables qui ne se seraient pas dévoilés chez des gens plus âgés, qui pourraient se voir chez les sujets plus jeunes. Donc je crois qu'il faut rester prudent. C'est aussi pour la France, on a la possibilité d'avoir les données qui nous viennent des États-Unis, du Canada. On doit rester extrêmement vigilant pour...
Quels effets secondaires, par exemple, pourraient arriver?
Par exemple, on sait qu'il y a quelques cas d'atteinte cardiaque, hein, ce qu'on appelle des myocardites, qui sont des inflammations du muscle du cardiaque, mais qui sont des effets indésirables qui ont été rapportés, qui sont peu sévères, qui sont dans tous les cas réversibles. Mais par exemple, cet effet-là n'avait pas été rapporté chez les gens plus âgés.
Alors on parle uniquement du vaccin Pfizer pour les 12-18 ans. Il faudra une autorisation parentale signée par les deux parents. Tiens, que dites-vous aux parents qui pourraient être inquiets ce matin en vous écoutant notamment parler de ces effets secondaires potentiels?
Je crois que quand on est parent, on est avant tout à l'affût de ce qu'on peut faire prendre comme risque à ses enfants. Donc je crois que c'est tout à fait légitime quand on est parent de se poser la question de savoir si c'est bien ou pas de faire vacciner ses enfants. Il faut également leur dire que les recommandations qui sont prises après une évaluation la plus soigneuse possible des données qui sont disponibles. Et on sait que parmi les recommandations de la HAS, il est exprimé une certaine prudence ou en tous les cas de pouvoir être vigilant sur les données qui pourraient arriver des pays qui ont commencé bien avant nous à vacciner les adolescents. Mais c'est vrai depuis le début de cette campagne de vaccination, c'est-à-dire qu'on a commencé en Europe à vacciner après le Royaume-Uni, après les États-Unis, après Israël. Donc on a bénéficié de ces données qui nous ont permis d'être beaucoup plus confiants dans la vaccination.
Odile Launay, dernière question. Le débat est en train de monter sur le masque obligatoire. Faut-il, comme beaucoup le réclament, lever l'obligation de le porter à l'extérieur dans les semaines qui viennent et pour l'été?
Alors, on est là dans une situation épidémiologique qui est très favorable, puisqu'on voit que le nombre de nouveaux cas continue à diminuer, que le nombre de patients hospitalisés diminue, le nombre de patients en réanimation et de nouveaux cas diminue de façon très importante. Mais on sait aussi que un variant plus transmissible et potentiellement plus grave est en train de circuler, en particulier au Royaume-Uni, donc le variant Delta. En France, il existe aussi des cas qui ont été rapportés. Donc on est aussi dans cette situation où on doit attendre finalement un tout petit peu avant de supprimer le masque. On a tous envie d'enlever le masque, surtout qu'il fait très chaud actuellement, que c'est d'autant plus difficile à accepter. Je crois qu'il faut se donner encore quelques jours et la prudence me paraît tout à fait adaptée aujourd'hui par rapport au maintien du masque.
Bon, encore quelques jours de prudence et c'est ce que dit le ministère de la Santé. Rien n'est décidé à ce stade, on parle peut-être de début juillet. On verra peut-être encore 15 jours. Merci professeur Odile Launay pour vos précisions ce matin et très bonne journée à vous.
Europe 1.
6h46, l'innovation du jour à suivre avec Anis Mbida.
Europe 1. Sébastien Krebs.
6h49 sur Europe 1, la mansuétude demandée aux forces de l'ordre pour les contrôles liés au couvre-feu ce soir. Exceptionnelle indulgence demandée par le ministre de l'Intérieur alors que la France dispute son premier match de l'Euro et qu'il devrait se terminer aux alentours de 23h. Allemagne-France, coup d'envoi 21h, match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Il est attendu cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris, Nicolas Sarkozy à la barre dans le procès Big Malion. Le chef de l'État est poursuivi pour financement illégal de campagne électorale. Et puis la cérémonie sera scrutée pour y déceler toute éventuelle allusion politique. Édouard Philippe va recevoir l'insigne de grand officier de la Légion d'honneur aujourd'hui, des mains d'Emmanuel Macron, une décoration attribuée automatiquement à tout Premier ministre resté au moins 2 ans à Matignon. Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour va faire hurler les graphologues. Vous avez trouvé une intelligence artificielle capable d'imiter n'importe quelle écriture à la perfection.
Et en plus, c'est tout simple. Vous prenez en photo un mot qui est dans l'écriture de ce que vous voulez copier. Vous tapez votre texte sur un ordinateur. Et comme police de caractère, vous choisissez la fameuse photo. Et là, instantanément, il va redessiner les lettres dans le même style que ce que vous avez photographié. C'est vraiment impressionnant. On vous a mis une vidéo sur le hashtag Europe 1. Le programme va apprendre les caractéristiques de l'écriture. Et il arrive à reproduire n'importe quelle lettre, même celle qu'il n'a pas vue. Tout ça uniquement en analysant ce qui a été le style de ce qui a été photographié.
Bon, alors c'est fascinant, mais c'est pas très rassurant. Ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi, à des faux, en pagaille.
Alors, heureusement, il copie pas encore les signatures, mais vous allez voir, hein, ça devrait pas
c'est
tarder.
Pareil, ouais.
Et pour moi, ça illustre le principal problème de la recherche actuelle en matière d'intelligence artificielle. Il n'y a aucune éthique. Contrairement à ce qui se fait en recherche médicale, les chercheurs peuvent ouvrir n'importe quelle boîte de Pandore et personne ne dira rien. Ça a commencé avec les deepfakes, vous savez, cette technologie qui permet de plaquer le visage de n'importe qui sur le corps d'un autre. La première fois que ça a été utilisé, c'était pour coller la tête d'une actrice célèbre. Sur quoi ? Eh bien, sur le corps d'une actrice porno. Et aujourd'hui, eh bien, la technologie est à la portée de n'importe qui. Donc, il serait temps que les chercheurs s'autorégulent, car avec l'intelligence artificielle, on sait désormais imiter la voix de n'importe qui, créer des visages de toutes pièces, faire des vraies fausses cartes satellites. Tout ça pourrait très mal finir.
Et l'Europe essaye de réguler l'intelligence artificielle ?
Oui, oui, mais pas les États-Unis et pas la Chine. C'est pour ça que j'insiste sur l'éthique, sur des règles mondiales, comme en médecine. Hein. Il devrait y avoir des recherches qu'on s'interdit de mener. Je suis peut-être un utopique, hein, mais je me dis que la technologie doit avant tout servir à un truc qu'on a tendance à oublier, hein, le bien commun.
Il faut peut-être mettre quelques limites. L'innovation du jour chaque matin avec Anis Mbida, il est 6h52. Et nous ouvrons notre revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 à travers le monde. On va débuter ce matin en Angleterre avec vous Anaïs Cordoba. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait la une des journaux à Londres ?
Eh bien, c'est la déception en une de la presse britannique ce matin suite au report de la dernière étape de la levée des restrictions. Gel de la liberté, titre Métro, quand serons-nous enfin libres, en une du Sun ? Le Daily Telegraph détaille, cette dernière étape signifiait la fin de la distanciation sociale, du télétravail et la réouverture des boîtes de nuit. Prévue le 21 juin, Boris Johnson l'a repoussée de 4 semaines. Selon le Guardian, il a pris cette décision à reculons face au rebond de l'épidémie causée par le variant indien. En une semaine, il a fait bondir de 46% les nouvelles contaminations au Royaume-Uni. Selon le site de la BBC, les scientifiques qui conseillent le gouvernement estiment que le report pourrait ralentir cette nouvelle vague de 30 à 50%. Parallèlement, rapporte le Times, le gouvernement va donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination.
Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1, direction l'Italie à présent. Bonjour Blandine Hugonnet.
Bonjour.
On entend donc ce coup d'arrêt en Angleterre. Et chez vous, qu'est-ce qui occupe les médias à Rome ?
Eh bien ici, c'est la nouvelle étape de réouverture du pays. Plus de la moitié de l'Italie passe en zone blanche, explique Il Giorno, ce qui signifie la levée de presque toutes les restrictions. Pour près de 41 millions d'Italiens, écrit la RAI, c'est un retour à la normalité. Désormais, fini les jauges en terrasse des restaurants, les parcs d'attractions peuvent rouvrir. Quant au mariage, ajoute le Corriere, le nombre d'invités n'est plus limité. Et surtout, le couvre-feu en vigueur depuis le mois de novembre est tout simplement supprimé. Pour 2 Italiens sur 3, c'est une victoire pour le Messaggero. Il faut dire qu'en Italie, après 6 mois de campagne vaccinale, comme le relève la Repubblica, il n'y a plus aucun décès dans la plupart des régions italiennes. Malgré tout, pour éviter tout rebond des contaminations, prévient Il Sole 24, il reste interdit de danser en discothèque et le masque, lui, est encore obligatoire. D'après Fanpage, sa suppression ne sera pas autorisée avant le milieu de l'été par un gouvernement italien toujours sur ses gardes.
Blandine Hugonnet à Rome, merci à vous. Nous terminons ce tour du monde ce matin aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait les gros titres à New York ?
Eh bien, la décision d'un juge au Texas, il a rejeté une action en justice déposée par des employés d'un hôpital de Houston, explique le New York Times. 117 personnes qui contestaient l'obligation de la vaccination contre le Covid imposée par l'établissement. Cet hôpital a été l'un des premiers du pays à exiger le vaccin obligatoire pour ses employés, et souligne le Houston Chronicle. Une toute petite fraction de ces 26 000 travailleurs, 170 s'y sont opposés et ont été suspendus. Ils pourraient même être licenciés s'ils ne se font pas vacciner avant le 21 juin. Le Washington Post dresse le portrait de Jennifer Bridges, une infirmière devenue fer de lance de cette contestation. Elle dénonce un vaccin expérimental et estime que l'hôpital oblige ses salariés à devenir des cobayes. CNN rappelle de son côté que les entreprises américaines peuvent légalement exiger une vaccination contre le Covid à leurs employés.
Alexis Guilleux à New York pour Europe 1. Europe 1. 6h55 sur Europe 1, le 7-9 démarre dans quelques secondes. Mathieu Béliard s'installe, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 6h58 sur Europe 1, très bonne journée, bon match. Ce soir, Mathieu Béliard est prêt pour la matinale et pour le match.
Pour le match, je ne sais pas. Pour la matinale, il faut bien, il est 6h58. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Oui, on ne va pas y aller par quatre chemins. Du foot à la une ce matin. Merci Sébastien d'avoir réveillé nos auditeurs depuis 5h ce matin. L'Euro lancé vendredi, l'entrée en lice des Bleus, c'est ce soir. Et ça démarre fort. France-Allemagne à 21h. Match à suivre évidemment en direct en intégralité sur Europe 1. Qu'est-ce qui a changé chez ces Bleus depuis 2018 ? Ça, on va en parler. Notre dossier dans le journal à suivre. La France championne du monde, finaliste du dernier Euro. Nous sommes favoris ce soir
histoire, paraît-il. Alors pourquoi est-ce que ça nous fait toujours aussi peur ? France-Allemagne, Virginie Fulpin va en parler dans son édito à 7h20. Et ce matin, le plus français des Allemands ou le plus allemand des Français, vous choisissez. Gernot Rohr, joueur emblématique des Girondins de Bordeaux, qu'il a entraîné par la suite à 7h40. On va parler de cette affiche, de cette entrée en matière de 7 euros qui commence par une finale, voilà, pour l'équipe de France. Sur Europe 1 ce matin, vous entendrez les supporters chanter depuis Munich où se joue le match. Et puis pour ce qui est de votre soirée, côté français, hein, évidemment, Gérald Darmanin appelle les forces de l'ordre à faire preuve d'une particulière mansuétude. Ça vous concerne, hein, si vous rentrez chez vous un peu tardivement après le match, après Roland-Garros vendredi dernier, le match ce soir, de quoi relancer le débat sur le couvre-feu maintenu à 23h. Voilà quelques éléments du programme ce matin. À 6h59, je retrouve Laurent Cabrol pour la météo. Bonjour Laurent.
Oui, bien bonjour Mathieu. Tenez, à Munich, il fera 27 degrés cet après-midi et pendant le match entre 20 et 22, ce sera vraiment très agréable pour jouer. Les températures chez nous, puisque que les couleurs du ciel, ma foi, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, nous aurons quelques orages sur les Pyrénées et sur les Alpes, mais dans l'ensemble, ce sera un temps très très ensoleillé. Il fera 24 degrés à Brest à l'ombre, 26 au Havre, tiens, 27 à Valenciennes, 30 à Marseille, à Rennes et Épinal, Nancy, Reims, Dijon, La Rochelle, Clermont-Ferrand, Paris, 31. Que pourrais-je donner ? Si, Nevers, 32. Et ce matin, c'est la ville la plus fraîche, hein, 10 degrés. 10 degrés, on va passer 10 à 32. 32 à Poitiers, 33 à Limoges. Lyon, Bordeaux, Toulouse, 34. 35 Cahors, 36 Avignon, 37 Alès et Lodève. Et tiens, Alès, 102.3, c'est notre fréquence. Tiens, on en profite un petit peu pour donner les fréquences. Hein ?
C'est fait. Alès, 102.3. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. À tout à l'heure. Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. On écoute le monde changer.